France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Et ce matin, on se demande si l'addiction, l'assuétude au sucre existe vraiment. Nous recevons la sage-femme Anna Roy qui évoque son sevrage du sucre après avoir pesé jusqu'à 126 kilos, une obésité massive selon la médecine. Nous verrons ce matin pourquoi le sucre nous attire tant, pourquoi il est difficile d'arrêter d'en consommer quand on est accro. Peut-on faire une analogie entre le manque lié au sucre et celui lié à la cocaïne par exemple? Comment expliquer ce manque et ce malaise quand on arrête le sucre? Éléments de réponse avec nos invités. Et vous, avez-vous eu la sensation d'être addict au sucre? Comment avez-vous fait pour vous sevrer durablement? 01 45 24 7000, sans oublier l'appli Radio France, où vous pouvez laisser une note vocale. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rébéi.
Bon, alors, un gâteau au chocolat énorme. Devant nous, hein, regarde, 12 plaques de chocolat amer, 12 plaques de 100 grammes.
Alors, 12 plaques de chocolat.
12 plaques, tu te rends compte, 1 kg 200 de chocolat.
C'est très calorique, le chocolat, je
Tais-toi,
crois.
Tais-toi, 600 oui. calories pour 100 grammes. Oui, c'est autrement alors, dit, 7200 calories pour ce gâteau, plus le beurre, plus la crème de marron. Bon, bref, une fois par an, quoi, je te l'ai déjà dit.
Un gâteau exceptionnel, hein, ça, par le fait.
Regarde-moi ce gâteau. Ça, c'est bon.
Non, c'est très, très, très bon. Hein.
Mon cher Michel Oliver, dans l'émission La vérité est au fond de la marmite, le 24 décembre 1978, avec le comédien Jean Carmé. Bonjour Anna Roy.
Bonjour Ali.
Vous êtes sage-femme, chroniqueuse à la Maison des Maternelles sur France 2 et vous publiez chez Larousse, énorme, le récit de votre obésité, de votre perte de poids liée à votre sevrage du sucre. On vient d'entendre la recette de gâteau au chocolat très très calorique de Michel Oliver. Vous débutez votre livre avec une recette de fondant au chocolat de votre grand-mère. Et ce fondant a joué un rôle fondamental dans votre vie. Vous le dites, vous l'expliquez, ce fondant a ponctué « Tuer ma vie », je vous cite, « accompagnant la joie dans les jours brillants, épongeant les pleurs dans les jours de tristesse abyssale, il a le goût éclatant de la vie vécue ».
Ah oui, exactement. Il était là à tous les grands rendez-vous les plus importants de mon existence, qu'ils soient heureux ou malheureux. Donc oui, le fondant au chocolat de ma grand-mère, c'était vraiment THE fondant au chocolat. Et mais après, j'ai eu d'autres plaisirs que le fondant au chocolat. Hein. J'ai su trouver.
Mais ce fondant, il est lié au plaisir de l'enfance, au plaisir sucré.
Au plaisir de l'enfance, mais même de l'adolescence, même des fêtes de famille, même des fêtes tout court, même des fêtes d'étudiantes, même de tous les moments éclatants de la vie. Quoi. Il était là partout.
Et à l'époque, il ne s'agissait pas d'une addiction.
Et ben là, c'était merveilleux. C'est-à-dire que je pouvais en consommer de temps en temps. C'était le fondant au chocolat du samedi soir ou de Noël ou je ne sais pas quoi. Et ça, c'était une très grande joie. Moi, c'est ce que je veux dire d'abord, c'est que le sucre a été un très grand plaisir avant de devenir un cauchemar.
Bonjour docteur Jacqueline Kerjean.
Bonjour.
Vous êtes chef du service addictologie à l'hôpital de Lorient et vous êtes vice-présidente d'Addiction France. Expliquez-nous ce qu'est cette association en quelques mots.
C'est une association nationale qui gère presque tous les XAPA, qui sont les structures de soins ambulatoires en addictologie, une bonne moitié des XAPA en France, et qui s'occupe de prévention et de plaidoyer au niveau du gouvernement. Et cette question est importante. Voilà.
Bonjour docteur Réginald Dallouche.
Bonjour.
Habitué de cette émission, vous êtes médecin, oui. Ingénieur biomédical, chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. Dernier livre paru chez Albin Michel, Sucre, l'ennemi public numéro 1. Et vous avez fondé la société Paltec, en quelques mots.
Paltec ? Paltec, je l'ai fondé avec un chercheur de l'INRA qui s'appelle Charles-Henri Malbert. Et nous avons réussi à mettre au point un traitement permettant la rémission du diabète de type 2. Entre 3 et 5 ans. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à ce dispositif, les patients ne seront plus malades du diabète de type 2. Donc nous sommes en pleine phase de développement. Comme toujours, nous levons des fonds, parce que ce sont les fonds qui sont l'axe de la guerre, et nous voudrions commencer les expérimentations humaines au plus tôt. Et c'est quand même une... Je suis très fier d'avoir participé, collaboré avec Charles-Henri Malbert à cette découverte, et elle est française.
Et je pose cette question du diabète de type 2, parce que vous, Anne Arora, en dépit de cette addiction au sucre, de cette obésité massive, hein, vous l'expliquez dans votre livre, vous avez pesé jusqu'à 126 kilos, vous n'étiez pas diabétique.
Bah si, en fait.
Prédiabétique
Prédiabétique, c'est sûr, et diabète à la limite. J'avais une glycémie à jeun, qui, enfin, ça va ennuyer les auditeurs, mais qui était vraiment pas bonne. Et ça, pour le coup, c'est assez remarquable. C'est-à-dire, vous arrêtez le sucre, enfin, j'imagine que c'est pas pour tous les patients la même chose, mais en l'espace de 3 mois, mes glycémies étaient redevenues strictement normales. C'était assez fascinant. Et l'hypertension, et les douleurs articulaires, et j'en passe, c'est des meilleurs.
Quelle est la glycémie à jeun normale?
Elle est entre 0,7 et 1,05 grammes par litre.
Voilà, et moi, elle était à 1,26, 1,35, enfin, des trucs qui étaient...
Et elle normaux. Ne doit pas dépasser 1,50 ou 1,60 après un repas.
Alors, Anne Arora, au moment où vous entreprenez ce sevrage du sucre, vous pesez 126 kilos, vous êtes en obésité massive. Auparavant, on parlait d'obésité morbide.
Oui, exactement, je suis pile à la limite. Et puis je suis dans un état de santé très dégradé. Parce qu'à la limite, c'est pas le tout d'être obèse, c'est que tout foutait le camp dans mon corps. J'avais l'hypertension, les douleurs articulaires, les infections à répétition, enfin j'avais tous les symptômes de la... c'était atroce, quoi. C'était une vie... C'est en prison, quoi. C'était atroce. Et puis en plus, je pouvais plus bouger. Enfin, c'était une catastrophe. J'étais très, très malheureuse.
Un jour, votre amie, l'animatrice Agathe Le Caron, vous invite à déjeuner dans un restaurant du 15e arrondissement de Paris. Et elle vous dit ceci. Anna, il y a un problème. C'est que je t'aime. Et que si tu continues à prendre du poids comme ça, tu vas mourir. Et là, ça a été un déclic.
C'est hyper bizarre. Parce que pourtant, je devais le savoir intérieurement. Mais le fait de l'entendre dire par quelqu'un, c'est comme si je me prenais un mur à 400 km/h. Et là, je comprends que je suis malade et que, en tout cas, j'ai vraiment envie de guérir. Donc, je vais pleurer pendant 24 heures, mais au bout de ces 24 heures, je me dis, ok, c'est sûr, je vais guérir parce qu'en fait, je suis malade. Si vous voulez, chez les personnes grosses, il y a un truc, c'est genre un peu un manque de volonté, c'est juste qu'on est des gens un peu nuls. Et là, tout d'un coup, vous vous dites, non, je suis pas nul, je suis malade, c'est pas pareil. Et donc, je vais m'attaquer à ce problème, quoi.
Et Agathe Le Caron a eu le courage de vous dire la vérité, cette vérité qui a agi comme une révélation pour votre bien, parce que vous aimiez le sucre plus que de raison. Pour vous, une vie sans sucre, c'était une vie sans béquilles.
Ah bah oui, c'était. Je pense qu'il aurait fallu que je prenne des antidépresseurs ou des anxiolytiques, enfin j'en sais rien, je suis pas spécialiste de la question, mais ce qui est sûr, c'est que ça agissait comme un... Oui, je prenais du sucre, ah! Ça allait mieux, c'était une pause dans la souffrance, quoi. C'était vraiment... j'avais 3 quarts d'heure de tranquillité. Après, il fallait que je recommence, mais j'avais vraiment au moins 3 quarts d'heure de tranquillité.
On reviendra sur ces souffrances, mais c'était un rituel, hein, à partir de 17h jusqu'au soir. Vous ne pouviez plus vous empêcher de manger très, très sucré. Un plaisir inarrêtable, irrésistible. Racontez-nous ce rituel quotidien.
Alors 17h, pourquoi 17h? Je sais pas, je m'étais mis une limite psychologique. Il fallait pas que j'aille en dessous, parce que là, pour moi, c'était vraiment la déchéance absolue. Mais je vivais grâce à ce 17h où je me disais, ok, je vais enfin pouvoir consommer du sucre. Donc je commençais par 2 goûters, donc 2 pâtisseries en général. Après, il y avait le dessert du dîner. Et puis après, juste avant de me coucher, vers 22-23h, là, il y avait de nouveau une quantité de sucre très importante. Et après, au fil du temps, je me suis rajouté des shoots de sucre quand j'avais des trucs hyper stressants dans la journée. Donc là, je me rajoutais, je sais pas, un Snickers. Enfin, tout de suite, ah, ça faisait l'effet de... Pff, c'était merveilleux. Hein.
Elle est vraie, cette expression, docteur Réginald Dallouche, le sucre appelle le sucre, parce que dans ce cas-là, on a l'impression que le sucre appelle le sucre tout au long de cette soirée.
Oui, et de là, ces là, soirées. Je pense que Mme Carjean répondra beaucoup mieux que moi sur ce sujet, parce qu'il s'agit effectivement d'une addiction. Mais je pense que j'ai beaucoup aimé votre livre, mais il y a une chose que vous avez dit sur laquelle je ne suis pas du tout d'accord. Vous avez dit, je me sentais nul. Comme si les gens obèses étaient nuls. Ils ne sont pas nuls.
Bah oui, oui.
C'est-à-dire que le sucre a des complices. D'abord, il a un complice très fort, c'est l'hérédité. Hein, dans la famille, regardez vos parents, mais vos grands-parents ou vos oncles et tantes, s'il y a un facteur d'obésité. Deuxièmement, il y a le fait que votre corps, lui, va réagir et que vous avez des organes qui sont faits pour un poids moyen. Et dès que vous grossissez, ben, vos organes, c'est comme un petit moteur dans un gros camion. Donc en fait, il ne peut pas réagir. Donc je m'oppose beaucoup au fait que quand on dit « les gens sont gros, c'est leur faute ». C'est pas vrai, il faut arrêter avec ça parce que cette culpabilité-là, d'abord elle fait faire que du cortisol, elle fait grossir.
Cortisol, c'est l'hormone du stress.
L'hormone du stress, ça, on les stresse et voilà. Il y a un environnement, il y a un environnement aussi psychologique, il y a une prise en charge psychologique obligatoire, donc il y a l'hérédité, la psychologie, le besoin de plaisir, et vous l'avez très bien dit dans votre livre, vous dites, je n'avais pas d'autre, à un moment vous n'aviez plus qu'un seul plaisir. Et je pense que dans la vie, on a un petit noyau qui s'appelle le noyau de la récompense. Et lui, il lui faut plusieurs plaisirs. Parce que s'il se cible sur un plaisir, et je crois que Mme Kerjean sera d'accord sur l'alcool, à ce moment-là, c'est l'alcool et c'est rien d'autre.
Docteur Jacqueline Kerjean, pouvez-vous justement nous raconter ce circuit du plaisir dès que je déguste un morceau de fondant au chocolat? Qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau?
Alors, il se passe que ça passe par ce qu'on appelle le système du plaisir ou de la récompense, et que ce système-là, c'est là où c'est embêtant avec le sucre et où les débats sont assez passionnés et contradictoires sur addiction ou pas addiction. C'est un circuit qui est absolument vital, essentiel chez tout être humain et chez tout animal. C'est un circuit, c'est-à-dire qu'on a du plaisir à manger, ça utilise ce circuit, pof, petite inondation de dopamine dans le cerveau, on a l'acte sexuel qui permet la survie, la reproduction, active aussi ce circuit-là. Quand on échappe à un danger, la survie, on active aussi ce circuit-là. Là, c'est plus l'adrénaline que la dopamine. Et on se sent bien après. Hein. Souvent, après avoir échappé à un danger, on éclate de rire. Il y a une sorte de flush de bien-être. Et le problème, c'est que le sucre utilise ce circuit-là de manière saine, vitale et physiologique. Mais que ce système peut être perverti par les produits psychoactifs, alors ceux qui sont bien reconnus maintenant, l'alcool, les drogues, le tabac, et qui vont mettre des niveaux de plaisir bien au-delà que ce qu'a prévu la nature pour nous, et que après, effectivement, comme vous disiez très bien, si on se centre sur un seul plaisir et qu'on n'a plus que ça pour soulager le mal-être, ça devient une obsession et ça devient une addiction. Avec tout ce que ça entraîne, c'est-à-dire on répète le geste, la consommation, malgré les conséquences négatives. Mais c'est vrai que ce que vous décriviez, Anna, c'était très intéressant, parce qu'il y a je continue malgré les conséquences, c'est mon obsession, j'y pense toute la journée, je tiens parce qu'il y a ça, et effectivement vous aviez centré votre plaisir sur le sucre. Alors après, là on sort un peu du côté purement addicto, il est très possible que, mais ça vous allez en parler mieux que moi sûrement, que les augmentations de concentration de sucre dans les aliments, et surtout de le mettre dans tous les aliments, y compris salés, favorisent un besoin supérieur de plaisir lié au sucre, qui fait que, à mon sens, ben ça c'est très personnel, hein, ça peut devenir un produit addictif. Même si on se rend compte que, voilà, enfin, en tout cas, les débats sont très contradictoires par rapport à sucre addiction ou pas. Moi, j'ai lu des contre, j'ai lu des pour. Et ce que je disais à Anna avant l'émission, c'est que, en fait, je finis par ma conclusion, mais on s'en fiche parce que la prise en charge est la même. Donc, et tous, même ceux qui sont contradicteurs, qui disent qu'il n'y a pas d'addiction au sucre, disent, tant qu'on ne sait pas, tant que le débat est ouvert, accueillons les patients comme des addicts au sucre, puisque c'est une bonne façon de les prendre en charge.
Et je précise que la dopamine, c'est une molécule notamment impliquée dans la survenue d'un état agréable procuré par la satisfaction d'un besoin, d'un désir ou par l'accomplissement d'une activité gratifiante. Juste un mot, Réginald Dalmouche.
Oui, bien sûr, je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire Dr Kerjean. Il faut savoir que nous sommes dans un piège, nous sommes piégés par le sucre. Pourquoi ? Parce que lorsque nous sommes fœtus, nous déglutissons le liquide amniotique dans le ventre de notre maman, qui est légèrement sucré. Lorsque la maman accouche et lorsqu'elle donne la tétée, le lait, quand elle allaite, bien sûr, eh bien, d'ailleurs, quand elle allaite pas, les laits maternisés sont sucrés. Pourquoi ? Pas parce qu'il y a un complot des industriels, simplement parce qu'il faut du fer pour les enfants, pour son cerveau. Et il faut couvrir le goût de fer. Donc, mais quand on goûte au lait de sa maman, il est légèrement sucré. Pourquoi ? Parce que s'il est acide, c'est-à-dire qu'il y a une infection, et c'est codé génétiquement. Donc en fait, on est dans un piège, c'est pas de moi cette expression, quasiment néo-darwinien. C'est-à-dire que le sucre avant, on n'avait vraiment pas... Les générations vraiment avant le 19e siècle, c'était les fruits. Voilà. Aujourd'hui, il y en a partout, et le problème, c'est que comme il y en a partout, eh bien, on est complètement piégé, et on a des seuils, vous l'avez très bien dit, Madame Kerjean, on a des seuils au début qui sont des seuils bas, et un enfant à seuil bas, et puis d'un coup il découvre les bonbons, les yaourts sucrés, les machins et trucs.
Les fondants au chocolat. Parti.
N'oubliez pas une chose, je dis ça vraiment important, c'est que le sucre, depuis deux siècles, est devenu un additif alimentaire. Il n'en a pas sur les arbres, des sucres. Voilà.
Anna Roy, vous nous raconterez tout à l'heure comment vous êtes sortie de ce piège de l'addiction au sucre. Bonjour Marie-Laure Zonshine.
Bonjour Ali.
Plutôt bec salé d'après ce que je sais.
Enfin, j'aime bien le sucre.
Rédactrice en chef à Femmes Actuelles, quel est le menu de vos questions toujours pertinentes?
Les édulcorants, les alternatives naturelles sont-elles une fausse bonne idée pour calmer ses envies de sucre? Et l'addiction est-elle une affaire de genre?
Bonjour Christophe André.
Bonjour Ali.
Notre psy en sucre d'orge, quel est le menu de vos choses vues?
Eh bien au menu, Anna, aveu et un scoop. L'aveu, j'ai été autrefois un prédateur, mea culpa. Et le scoop, la tempérance n'est pas une vertu ringarde, mais une vertu moderne.
Ali Rebéi.
Il y a le salon du chocolat qui commence, on y va ?
Ah, sûrement pas.
Grand bien vous fasse.
J'arrête le sucre. T'arrêtes le sucre, toi ? Mais évidemment, ils en collent partout, t'as pas regardé ? Ah, si tu les écoutes, bonne maman, c'est Pablo Escobar. Alors, très peu pour moi.
Sur France Inter.
Et vous avez peut-être reconnu Catherine et Liliane. Peut-on vraiment parler d'addiction au sucre ? C'est notre thème ce matin. Je vous propose d'écouter le chercheur au CNRS, Serge Ahmed, qui a réalisé une série d'études sur l'addiction au sucre.
Ce que nous avons observé, c'est que lorsque les animaux ont un accès prolongé à la cocaïne, ils escaladent leur consommation. À un moment donné, on s'est posé la question, mais... dans cette cage, l'animal est seul, il n'a pas d'autre choix que de prendre de la cocaïne. Est-ce qu'on peut vraiment parler de perte de contrôle si les animaux n'ont pas d'autre choix ? On s'est dit, allez, proposons-leur un choix. On va leur donner une boisson sucrée. Tous les rats ont arrêté de prendre de la cocaïne pour boire la boisson sucrée. Au début, on n'y a pas cru parce que c'était un résultat qui était tellement surprenant, tellement inattendu, qu'on a passé 2-3 ans à réaliser tout un tas d'expériences, contrôles complémentaires pour bien consolider l'existence de ce phénomène. Donc effectivement, même après plusieurs semaines de consommation excessive de cocaïne, lorsque les animaux ont le choix entre une boisson sucrée et une dose intraveineuse de cocaïne, la vaste majorité d'entre eux, et parfois même tous les animaux, préfèrent la boisson sucrée à la cocaïne. Ça a été un peu le déclic qui a conduit à penser que il y avait des éléments dans les nourritures qui pouvaient avoir une composante addictive comparable à d'autres drogues comme la cocaïne ou l'alcool ou voire le tabac.
Extrait du documentaire « Le sucre, une drogue au quotidien ». Alors, docteur Jacqueline Kerjean, je rappelle que vous êtes addictologue. D'autres études ont-elles corroboré ces fameuses recherches de Serge Ahmed et de son équipe du CNRS à Bordeaux ?
Il y a eu des études un peu partout dans le monde, et surtout en Australie, qui ont corroboré ces données. Après, c'est, comme disait docteur Dallouche tout à l'heure en aparté, c'est vrai que c'est des études sur les rats. Il y a eu par contre très très peu d'études chez les humains, d'où ces débats et le fait que je vous donne les arguments contre ces études, parce qu'il y en a eu beaucoup, hein, il y en a eu des pour, mais il y en a eu des contre, c'est qu'effectivement c'est probablement pas le sucre en tant que tel, en tant que poudre blanche qui est responsable. Effectivement, c'est pas une drogue qu'on va aller chercher en se prostituant ou en braquant la grand-mère, c'est un ensemble d'aliments où le sucre est intégré et peut-être aussi mêlé à d'autres aliments. Il y a des études en cours d'ailleurs sur le monoglutamate, c'est ça. Exactement. Et certains corps gras, et qui seraient aussi addictifs. Après, quand on voit la clinique de ces rats, le comportement, et on fait des parallèles avec ce que nous on voit dans notre expérience clinique, on peut parler d'addiction like, au moins, à mon avis.
C'est comme un... Docteur Réginald Dallouche.
C'est comme un vaccin avec un rappel de vaccin. Vous savez, je suis d'une époque où on faisait des rappels. Et c'est comme un petit rappel. Donc, à chaque fois que vous mangez un produit qui contient du sucre, alors que... Bon, je reprends toujours cet exemple, qui est d'ailleurs repris souvent, de la saumure des cornichons, on met du sucre dedans pour masquer certaines acidités. Eh bien, ce petit sucre-là, il va relancer... votre petite, alors je ne sais pas s'il faut dire addiction, mais votre envie de prendre du sucre. Et il va réexciter. En fait, le problème, c'est qu'on en met beaucoup, on en met partout, parce que c'est un très bon conservateur et parce que c'est un exhausteur de goût. Donc c'est là où il faudrait d'ailleurs que les pouvoirs publics prennent un engagement, s'engagent. Parce que dans des pays comme les nôtres, qui sont extrêmement réglementés, extrêmement normés, il y a des normes pour tout, quelle est la norme de pourcentage de sucre qu'on peut rajouter dans les bonbons ou les gâteaux des enfants ? Je pose la question.
Alors, je précise qu'en 2004, l'Organisation mondiale de la santé indiquait clairement que la préférence pour un produit alimentaire ne pouvait être assimilée à une dépendance semblable à celle provoquée par des drogues. En revanche, la cinquième édition du DSM, le fameux manuel diagnostique et statistique, la bible de la psychiatrie internationale, a élargi le champ de l'addiction et englobe désormais les relations plus ou moins aliénantes à des pratiques ou à des comportement. Vous, Anna Roy, est-ce que vous avez la sensation, en tout cas, quand on lit votre livre, c'est clairement oui, d'être addict au sucre ?
Addict au sucre en tant que substance, non, mais en tout cas aux aliments sucrés, c'est certain. Enfin, en particulier les pâtisseries, etc. Oui, j'ai la sensation d'être addict parce que j'ai eu un vrai sevrage. D'ailleurs, quand je suis allée au sevrage, jamais j'aurais pensé que j'allais faire qu'il y aurait un sevrage. J'étais très surprise.
Dans Énorme, dans votre livre, quand vous décidez d'arrêter le sucre, vous avez l'impression d'être privé de votre dope. Vous le dites, vous utilisez le mot dope.
C'était horrible.
Et qu'est-ce que vous ressentez dès ce premier jour de privation ?
Dès dès le lendemain, dès le surlendemain, en tout cas les 6 premières semaines, c'était cauchemardesque. J'avais des tremblements, j'avais des sueurs, j'avais des vertiges, j'étais pâle, j'avais des douleurs abdominales, j'étais obligée de me coucher en chien de
fusil. Vous aviez des acouphènes ?
J'avais des acouphènes, alors que je suis quelqu'un qui est hyper speed tout le temps. Enfin, j'étais dans un état de santé qui était. Et je me suis dit, mais Anna, t'es en train de te tuer à te priver de sucre. Donc j'hésitais, et puis je voyais ma glycémie, parce que j'avais un capteur qui faisait des trucs hyper bizarres, qui ressemblaient à rien. Non, c'était vraiment flippant, quoi.
Et puis vous ressentez des hypoglycémies assez importantes.
Ah oui, c'était horrible.
Avec des sueurs, des pâleurs.
Ah, c'était atroce.
Des sensations de faim anormales, une irritabilité.
Ah, c'était atroce.
Et puis de l'angoisse.
Mais ouais, et c'est ce qui m'a fait tenir en même temps, parce que c'était tellement horrible que je me disais, mais je peux pas repartir à zéro, quoi.
Mais ça passe. Je pense que ça, c'est du courage pur. Et ce qui est rassurant, c'est que tout ça, ça passe assez vite au fond. Ouais. Beaucoup plus que pour les autres drogues. Celui qui avait raison, c'est... Bon, vous l'avez très bien dit, il faut du sucre et du gras. Proust l'a dit dans sa madeleine. La madeleine, c'est quoi ? C'est du sucre et du gras. Ouais. Le sucre pur, il est pas très attractif. Et donc, ce qu'il faut, c'est faire ce que vous avez fait, porter un capteur, même si vous êtes en bonne santé, et si vous pensez que vous avez des goûts addictifs, portez le capteur et vous regardez sur votre téléphone la glycémie. Aujourd'hui, c'est extraordinaire ce que permet un capteur. Il permet de savoir ce qui se passe à l'intérieur de notre corps lorsqu'on mange du sucre.
Mais comment expliquer, docteur Kerjean, ce manque terrible, ces fringales qui tenaillent un arroi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est de la faim ou c'est le manque du produit ?
C'est du manque et qui doit être d'autant plus fort des moments où elle a réellement faim. Hein, ça majore l'effet de manque. Et c'est que ce que disait Anna au début, elle a construit toute sa gestion émotionnelle autour de ce produit-là qu'elle attendait et puis après qui est venu tout seul sans attendre le besoin émotionnel, qui est devenu un peu autonome par lui-même quoi, dans son cerveau. Et c'est ce processus-là qui fait qu'on peut parler, en tout cas, que ça ressemble beaucoup à l'addiction. Et c'est vrai que dans les contradicteurs des études de Bordeaux sur les rats, il parle de l'absence de syndrome de sevrage chez l'humain. Et là, vu ce qu'a vécu Anna, ça me semble un peu gonflé de le dire. Et puis dans notre expérience personnelle, on observe des choses quand même au moins à minima. Et moi, je crois beaucoup à l'avancée de la science par l'entrée patient.
Bonjour Déo, bienvenue dans l'émission.
Bonjour.
Racontez-nous votre histoire qui semble faire écho à l'histoire d'Anna Roy.
Tout à fait. Alors, bon, j'ai 54 ans. J'ai eu deux cancers dans ma vie où on m'a parlé du sucre, qu'il fallait que je le restreindre. Et donc, j'essaie parfois, là, je viens de rentrer depuis hier, donc ça tombe bien votre émission, me dire supprimer le sucre. Donc, je vais être exécrable quand mes enfants vont rentrer ce week-end. Mais c'est des boulimies, enfin, qui m'arrivent vers 17h. Bon, je vis seule. Et c'est des boulimies qui, à partir de 17h, je mange, je sais pas pourquoi, j'ai besoin, je recherche, je n'achète plus de sucre, enfin de gâteau. Et donc, vers 17h, je vais me faire un petit cake. Et puis, je suis capable de manger mon cake dans la soirée parce que, et c'est comme si j'avais eu un soulagement, comme une drogue, effectivement. Donc là, je suis rentrée depuis hier sans sucre, avec zéro sucre, mais c'est horrible.
Qu'est-ce que vous ressentez ?
Je n'ai pas du tout ce capteur. Moi, j'ai entendu en parler là à l'instant et je trouve ça très intéressant. Je vais peut-être me le procurer, cette montre. Mais je ressens un gros manque. Comme je suis seule, je ne suis pas méchante parce que je ne peux pas être méchante avec moi. Mais je ressens un manque, comme un grand manque. Alors, je vais me faire des pâtes à la place. Donc, je vais alors, il y a du sucre également dedans, mais je vais me faire un bon plat de pâtes avec, pour le repas, pour mon dîner, pour essayer de combler ce manque de sucre.
Al dente, si possible, pâtes et avec des légumes.
Mais il y a une chose très intéressante que vous avez dite. Vous avez dit, je ne suis pas méchante avec moi. Mais en fait, il faut être gentil avec vous. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, il faut inverser. C'est-à-dire que, par exemple, votre foie, quand vous lui envoyez des grosses doses de sucre comme ça, bon alors, même sans pathologie, il va avoir beaucoup, beaucoup de travail. Alors que, si par exemple, lorsque vous rentrez le soir et que vous dites, oui, c'est mon rituel, bon, il faut que je me remplisse parce que je me sens seul. En gros, on ne va pas faire de la psychothérapie par radio interposée, mais la réalité, à ce moment-là, faites un petit... Je vous propose quelque chose. Prenez un verre d'eau fraîche, asseyez-vous dans un endroit tranquille, coupez votre téléphone, attendez un quart d'heure et ensuite préparez-vous des noix ou des amandes et vous les rongez. Et vous verrez que si vous rongez des amandes, au bout de 5, 6 secondes dans la bouche, vous aurez un petit goût sucré. Donc il faut leurrer votre cerveau, parce que votre inconscient n'est pas votre ami dans ce cas-là, et il faut trouver des solutions, parce que vous ne pouvez pas continuer à manger un cac tous les soirs, c'est impossible.
C'est un refuge donc le sucre chez vous, Déo ?
Oui, tout à fait, un gros refuge, peut-être affectueux, plein de choses, et puis je me l'interdis, j'ai un peu honte après avoir mangé. Bon, je suis pas encore obèse, mais en surpoids. Mais je
toujours moi, cette honte, hein, toujours cette honte, Liliane Kerjean, qu'évoque Déo, mais qu'évoquait aussi Anna Roy tout à l'heure.
Et qui fait partie intégrante de l'addiction. Hein. Personne n'est heureux d'être addict. Hein. Et c'est vrai quand on dit, c'est pas des gens qui sont nuls. Surtout pas. C'est des gens qui ont une fragilité. Et je voulais juste rebondir sur la notion de 17 heures. C'est vrai que c'est une heure fatidique. C'est la lumière qui tombe, surtout les mois d'hiver, la fatigue de la journée. On est beaucoup plus fragile par rapport à tous nos démons dont sont nos addictions.
Ouais. Désolé, je vous ai appelé Liliane.
C'est pas grave.
Il faut décider, par exemple, de faire une collation à 17h, volontaire et non addictive. Non être victime, mais être acteur. Et je répète, les gens ne mangent jamais par hasard. Il faut arrêter avec t'es gros parce que tu manges. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche.
Question de Marie-Laure Zonshine de Femme Actuelle.
Oui, dans son podcast Addiction, dont vous avez été l'invité à Narrois, le professeur Laurent Carilla dit que cette addiction touche beaucoup les femmes. En tout cas, il dit voir plus de patientes que de patients. Est-ce qu'on a effectivement des données sur le fait que les femmes, ou pas, seraient davantage concernées par l'addiction au sucre ?
Alors, par l'addiction au sucre en elle-même, on n'a pas de données vraiment. Par contre, par rapport à toutes les autres addictions, oui, les femmes sont plus concernées, en fait, elles sont plus fragiles face aux addictions. Elles sont plus fragiles physiquement, elles ont une toxicité des produits qui va intervenir plus tôt avec des quantités égales de produits. C'est très très vrai pour l'alcool. Au niveau du foie, là par exemple, je donne un exemple que je donne régulièrement mais qui est vrai, pour développer une cirrhose du foie, donc la dégradation ultime du foie en lien avec l'alcool, il faut en gros une vingtaine d'années à un homme avec un litre de vin à 11 degrés. Ah oui. Pour une femme, il faut 5 ans avec un quart de litre du même vin.
Et j'ajouterais, vous avez absolument raison, j'ajouterais aussi qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le foie d'une femme est protégé jusqu'à la ménopause par les œstrogènes, parce que vous savez, vous pouvez avoir des enfants qui n'ont pas le même rhésus. Et donc le foie est protégé. Après la ménopause, les statistiques des études montrent que les risques sont les mêmes pour les femmes et les hommes. Puis il y a peut-être un biais aussi, Alain Mochtein, sur ces études, c'est que souvent les femmes font beaucoup plus attention à leur santé que les hommes. Oui. Les hommes, les livres, par exemple, sur la santé, sont beaucoup plus achetés par les femmes que par les hommes. Les hommes regardent ça un peu de loin, alors que les femmes s'intéressent à ça et sont actives.
C'est tout à fait vrai. Il y a une injustice biologique de base qui est très forte, hormonale, le format du foie qui est plus petit, le pourcentage en graisse, qui fait que la concentration des produits, le sucre ou l'alcool, est plus forte dans le sang des femmes. Mais elles demandent de l'aide beaucoup plus vite. Donc il faut finir sur une note positive. Mais il y a réellement une différence de genre, elle est indéniable.
Merci beaucoup Déo de nous avoir appelé au 01 45 24 7000. Alors Anna Roy, à propos de ce titre énorme, du titre de votre livre, vous écrivez ceci: énorme mon implication, énorme mon temps de travail, énorme le panel des émotions, énorme ma sensibilité à la joie des autres, énorme ma vulnérabilité face à la souffrance. Et à propos de souffrance, ces 15 dernières années, vous avez vécu la mort de votre père, le cancer de votre mère, deux viols, deux fausses couches. Et le sucre, les produits sucrés ont été un refuge face à tous ces traumatismes et à toutes ces souffrances, et vous l'expliquez très bien dans votre livre.
Oui, en 2011, j'ai une année absolument catastrophique, vraiment catastrophique, où il y a la succession de beaucoup d'événements. Effectivement, ça, je me rappellerai toute ma vie, c'était à l'hôpital, mon père était hospitalisé plein de fois, et je me rappelle du besoin du paquet de M&M's. Et je me dis, merde Anna, ce paquet de M&M's, tu vas plus pour le plaisir, tu y vas parce que t'as besoin de ce putain de paquet de M&M's. Et là, je sens que ça y est, c'est foutu. Mais après, je suis partie sur une espèce de pente enneigée, et je trouve rien à me raccrocher, quoi. Je glisse, mais
puis
c'est foutu.
Puis il y a eu deux fausses couches, et puis deux viols.
Oui, deux viols en plus graves, enfin avec soumission chimique, coups, etc. Mais après, moi, je suis un caractère de fonceuse, donc je me suis dit, ok, c'est pas grave, tu continues d'avancer, meuf, il t'arrive tout ça, mais tu continues d'avancer. En fait, j'ai continué d'avancer, mais pour avancer, j'avais du sucre, quoi, et j'ai pris 60 kilos.
Jacqueline Kerjean.
Là, on touche au nœud des addictions graves, en gros, hein, c'est la souffrance hein, et des traumas vécus essentiellement. Donc là, on voit qu'il y a une succession dramatique d'événements difficiles et que c'est plus le paquet de MMS que vous êtes allé chercher probablement, c'est arrêter d'avoir mal. Ouais. Et comme c'était le sucre du fondant de maman qui était inscrit dans votre cerveau comme réconfort, vous êtes parti sur le sucre. Ça aurait été le petit kir, vous seriez devenu dépendante à l'alcool, probablement.
Mais ouais. Est-ce que ça marche vraiment, enfin sur le court terme, le fait de manger ce produit sucré pour s'apaiser, pour se calmer, ça fonctionne quand
mais
on
oui,
souffre
oui, mais oui, ça fonctionne, puisque ça utilise ce système du plaisir, et si on le fait fonctionner à plein, momentanément, ça va vraiment bien fonctionner. Et normalement, la nature fait qu'on peut s'arrêter suffisamment de manière plus habituelle, enfin en tout cas plus facilement qu'avec une drogue. Mais quand on a l'habitude d'avoir perverti ce système avec des seuils trop importants, on a plus de mal à arrêter, effectivement.
Alors le contre-coup de ce sevrage, Anna Roy, c'est que vous ne supportez plus les cons. Je vous cite. Sans la bouffe pour absorber leurs bêtises, leur irrespect, sans le sucre entre eux et moi pour amortir l'impact, je prends tout de plein fouet. Bref, vous n'avez plus votre dope, votre sucre pour vous calmer face aux cons.
Non mais c'est vrai. C'est-à-dire que moi j'arrive plus. Avant, j'acceptais tout, je me faisais passer sur le corps. Enfin, j'étais là vraiment la plus gentille. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, ça, il faut que j'aille me calmer, quoi.
Oui. Mais non, au contraire.
Mais ça, non mais c'est souvent. Bien, oui.
On le retrouve souvent, par exemple, chez les obèses qui ont fait une sleeve.
Rappelez ce qu'est une sleeve.
Alors, la sleeve, c'est en fait, on transforme l'estomac, on coupe une partie longitudinale, là où il y a des cellules qui sécrètent la gréline qui donne faim. C'est une hormone qui est hors oxygène. On le coupe dans le sens de la hauteur et ça fait une sleeve, une manche en anglais. Hein, ça fait une manche. Et donc, les gens perdent en général 30-40 kilos. C'est des indications très particulières. Il y a tout un circuit avec psychologue, gastro-entérologue.
Et d'un point de vue comportemental.
Et alors, ce qui se passe, c'est qu'avant, on a des gens qui acceptaient plein de choses hein, parce qu'ils se disaient, de toute façon, je suis nul, je suis gros, je machin. Puis après, ils ont perdu 40 kilos.
Merde,
quand vous leur dites bonjour, il faut leur dire bien bonjour.
Attention,
et ça, j'adore ça, parce que ça s'appelle, et c'est pas Christophe qui va... Ça s'appelle l'estime de soi. Attention, et quand on retrouve l'estime de soi, on a gagné.
Attention, si vous croisez Anna Roy.
Attention au con.
Ouais. Comment ça se passe, Anna Roy, au quotidien, cette éviction du sucre? Quel type de régime alimentaire avez-vous adopté? Parce qu'on a beaucoup de questions dans ce sens. Chloé qui nous dit, je suis vraiment addict au sucre, j'ai essayé beaucoup de choses, mais rien ne marche. J'ai réussi à arrêter la cigarette, mais ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus compliqué. Et vous le dites aussi, Anna Roy.
Mais c'est beaucoup plus dur, enfin, c'est même pas comparable. Non, moi j'ai choisi de faire une éviction totale et définitive, alors après peut-être qu'un jour je pourrais en remanger. Mais là je suis pas du tout prête, et du coup je ne mange plus jamais de sucre ajouté. Mais après tout, on en a pas
de sucre ajouté.
Ah oui,
mais
bien
vous
sûr.
Mangez donc
je mange des fruits, je mange des féculents, je mange tout en fait. Puis comme j'ai une alimentation, je suis madame alimentation méditerranéenne, mais spontanément, parce que j'aime ça, j'aime Ottolenghi comme une folle. Donc,
grand chef.
C'est ma passion. Donc si vous voulez, j'ai pas de goût pour je sais pas quoi, des paquets de chips ou du saucisson, ça m'intéresse pas du tout. Donc finalement, en fait, je mange juste Ottolenghi.
Mais est-ce que vous autorisez des pâtisseries, mais faites d'une. Enfin, voilà, composées avec un certain type de sucre.
Non, j'ai trop peur. D'accord. J'ai trop peur, parce que je me dis, mais si jamais je remets le doigt dedans et que ça repart, non plus. Non.
Mais, c'est comme la cigarette, hein. On arrête de fumer, on reprend une cigarette, allez, une petite cigarette, et c'est reparti.
Mais docteur Alouche, est-ce que c'est tenable à moyen et long terme, cette éviction totale du sucre?
J'ai en face de moi un héros, parce que c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile, pourquoi? Parce que tout ça est en vente libre. La cocaïne, c'est pas en vente libre. Le hashish, c'est pas en vente libre. Le vin, l'alcool, c'est en vente libre, mais il y a le regard des autres. Alors que le sucre, il n'y a aucun regard. C'est-à-dire qu'on peut acheter ce qu'on veut. Et ce que je peux donner à nos auditeurs comme conseil, regardez ce que vous avez dans les placards. Parce que nous sommes dans une civilisation où on ne jette rien. On n'aime pas jeter l'alimentation. Ouvrez vos placards et vous saurez si vous allez consommer. Moi, je vois des gens qui vont finir leur yaourt sucré et qui vont quand même aller consulter pour perdre du poids. Donc, il faut être raisonnable, il faut essayer. Moi, je pense que vous êtes un héros, Anna.
Non,
parce que c'est très difficile d'arrêter tout le sucre. C'est très difficile.
Jacqueline Kerjean.
J'utilise les mêmes propos avec les patients qui ont un problème avec l'alcool. Alors, je n'utilise pas héros. Enfin, en tout cas, je les félicite et je dis, mais par moment, vous devez passer pour des martiens. Parce que c'est vrai que c'est en vente libre. Tout le monde consomme, que ce soit le sucre, c'est pareil. Hein, c'est un côté festif, l'alcool. Et il faut savoir dire non. Et ce que vous disiez sur votre allergie au con, j'ai beaucoup aimé. C'est que, en fait, vous travaillez sur votre affirmation de soi, votre estime de vous, et c'est ça la base, et c'est une fois que ça sera bien rebâti, on en parlait avant l'émission, que peut-être un jour la saveur sucrée pourra revenir dans sa vie, peut-être, hein, et sous haute surveillance. Ouais.
Je vous donnerai des recettes de fondant pas trop sucrées à Marois. Allez, il est 10h42, l'heure de retrouver les choses vues de Christophe André.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Christophe André.
Longtemps, j'ai été un prédateur des goûters d'anniversaire. Quand mes filles invitaient 10 ou 20 copines et copains à la maison, je rôdais autour de la table pour avaler en douce fraises Tagada, bonbons au goût de banane synthétique. Quand la fin d'après-midi arrivait et que les départs se succédaient, je faisais le tour des assiettes pour tout terminer. On ne gâche pas. Je sais, c'est mal, j'enlevais les sucreries de la bouche des enfants, mais j'avais des excuses. 3 excuses. D'abord, c'était mon salaire en quelque sorte. J'étais quand même un peu acteur majeur de ces goûters entre les parents à accueillir, enfants à calmer, spectacles de marionnettes à animer, jeux à diriger. Je méritais bien quelques menues récompenses. Ensuite, c'était ma fragilité culturelle. Je fais partie d'une génération d'enfants pour laquelle les bonbons, le sucre, c'était la récompense. Tu as été sage, tu auras des bonbons. C'était pareil pour les chiens d'ailleurs. Dick, fais le beau si tu veux ton sucre. Du coup, pour nous, les bonbons, les sucreries, n'étaient pas des plaisirs coupables, mais des synonymes de bonne conduite ou de fête. Bon. C'était l'époque aussi où je passais tous mes jeudis chez le dentiste à cause des caries subséquentes à cette philosophie de vie, mais c'est une autre histoire, quoique. Enfin, 3e excuse, biologique. Mon cerveau, notre cerveau humain, le pauvre, il adore le sucre, parce qu'il en a besoin, c'est son carburant. Notre cerveau adore le sucre et cela se voit à 1001 détails, comme l'intrusion du vocabulaire du sucre dans celui de l'amour. Écoutez plutôt. Sugar. Je vais traduire pour info. Miel. Ah, sucre, sucre.
Excellent.
Tu es ma fille bonbon. Et tu es si désirable. Bon, et oui, c'est vrai que ça marcherait. Oui, oui, ça marcherait moins bien si on chantait céréales complètes. Ah, fruits à fibres, fruits et fibres. Tu es ma source de sucre lent. Et tu es si désirable.
Ça marche pas.
Ben ouais, ça marche pas. Pourtant, c'est de ces sucres-là, ces sucres tranquilles, d'absorption lente, ceux des céréales complètes, des fruits entiers avec toutes leurs fibres, dont notre cerveau a besoin. Pas du shoot des sucres d'absorption rapide, des sucreries qui mettent la pagaille dans notre glycémie et désinguent notre pancréas. Non, ce sucre-là, celui des sucreries, notre cerveau est sans défense par rapport à lui. Il croit que c'est du bon carburant alors que c'est de la mauvaise drogue. Une drogue, le sucre? Eh ben oui. On définit une addiction par 3 points principaux. Appétence, dépendance, accoutumance. L'appétence, c'est la recherche régulière du produit. Eh oui, chez les habitués, il y a une appétence pour le goût sucré. Pas au point de braquer une confiserie, mais suffisante pour finir le paquet de bonbons ou l'assiette de pâtisserie. La dépendance, ben, c'est-à-dire l'impossibilité de se passer du produit. Oui encore, même si c'est peut-être plus une difficulté, ne pas sucrer son café ou ne pas prendre un dessert alors qu'on n'a plus faim, qu'une véritable impossibilité à s'en passer. L'accoutumance, c'est-à-dire la nécessité, pour obtenir le même plaisir, d'augmenter les doses. Alors, peut-être pas vraiment pour les sucreries. Le sucre des sucreries, c'est donc une drogue, mais douce. Douce, mais qui abîme notre santé, nos dents, notre pancréas, notre microbiote et bien d'autres choses encore. Pourtant, c'est si bon. Alors, que faire? Autrefois, on banalisait le sucre, comme la cigarette, l'alcool, etc. Aujourd'hui, on le diabolise. Comment trouver le juste milieu? Peut-être en redécouvrant une vertu un peu ringarde, la tempérance. La tempérance ne diabolise pas nos sources de plaisir. Elle les régule. Elle considère que la liberté ne doit pas être mise sous le contrôle du plaisir, mais l'inverse. La tempérance, ça n'est pas l'ascétisme. Le plaisir est bon tant qu'il reste sous mon contrôle. C'est une vertu, d'autant plus nécessaire et précieuse que nous vivons dans un environnement de pléthore, une société d'incitation. La tempérance, c'est l'ennemi de la pub, du consumérisme. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter ce vêtement, de changer de voiture, de reprendre du gâteau? C'est pour ça qu'elle est parfois ringardisée, car elle ne fait pas consommer. On s'en fiche. Allez, je déclare ouverte la semaine de la tempérance joyeuse. Essayez, vous m'en direz des nouvelles.
Réaction autour de la table, Anna Roy.
C'est mon rêve, la tempérance. Dans tous les domaines de ma vie, c'est mon rêve.
Pareil, merveilleux. Et la tempérance joyeuse. On en parlait avec Anna. C'est, on a perdu le goût de l'effort, mais au sens magnifique du terme, de faire un effort pour aller mieux. Bah, ce qu'a fait Anna, hein, quand on dit que c'est une héroïne, oui, tout à fait d'accord. Elle a fait un effort monstrueux, énorme. et elle en est heureuse. Elle se sent sûrement plus libre à l'heure actuelle.
Les choses vues de notre sucre d'orge, Christophe André, a podcasté sur l'appli Radio France. Sans oublier les vidéos sur les réseaux sociaux de France Inter.
France Inter.
La vraie force, c'est de casser une barre de chocolat en quatre et de n'en manger qu'un carré.
Grand bien vous fasse.
Résiste. Prouve que tu existes.
Ali Rebbi.
Peut-on vraiment parler d'addiction au sucre? C'est notre thème ce matin.
Il y a des moments où c'est plus fort que moi. J'ai besoin de ma petite dose tous les jours. Si du jour au lendemain, ben voilà, on trouve plus de sucre, nulle part, ah ben je crois que je serais vraiment, oui, je pense que je serais vraiment en manque. J'ai envie de m'en sortir, enfin d'arrêter ou de diminuer le sucre, mais voilà, j'en ai besoin tous les jours. Sinon, je suis par moments pas bien. J'ai des maux de tête ou un peu plus irritable ou voilà, un peu plus à cran, plus agressive.
Extrait du documentaire « Le sucre, une drogue au quotidien ». Alors Anna Roy, ce témoignage fait évidemment écho à votre livre, énorme. Vous avez arrêté le sucre comme s'il s'agissait d'une drogue, une drogue qui empoisonnait votre existence. Quels sont les bienfaits de cet arrêt du sucre, de ce sevrage? Dans votre cas précis, on ne peut pas généraliser, mais qu'est-ce qui s'est passé au bout d'une centaine de jours?
C'est spectaculaire, c'est-à-dire que j'avais plus d'hypertension, j'avais une glycémie normale, j'avais plus de douleurs articulaires.
Glycémie normale à jeun?
À jeun, plus d'infections à répétition. Plus d'acné, plus de mycoses,
plus de douleurs articulaires,
plus de douleurs. Non mais c'est spectaculaire. En fait, c'est pas la même personne. Un niveau d'anxiété qui avait drastiquement diminué. Enfin, les symptômes dépressifs en chute libre. Enfin, c'est pas la même personne presque.
Comment ça s'explique, docteur Jacqueline Kerjean? Je rappelle que vous êtes chef du service d'addictologie à l'hôpital de Lorient.
Et en post-cure à CAPS, ouais. Je le tiens pour l'équipe qui m'écoute. C'était souvent les produits que l'on consomme, c'est pour calmer une anxiété et un malaise qu'on ressent. Je pense à l'alcool et au sucre, parce que vraiment on peut faire des parallèles intéressants. Et sur le coup, ça marche très bien, effectivement. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, ça marche 3/4 d'heure et puis après, il faut en reprendre. Ouais. Mais dans le quotidien, ça majore cette anxiété-là. Les gens qui arrêtent de fumer le voient bien aussi. Ils veulent pas arrêter parce qu'ils sont hyper stressés. Et 2 mois après l'arrêt, ils disent « mais j'ai jamais été aussi zen ». Et on retrouve ça.
Comment expliquer, docteur Ginald Lalouche, tous ces bienfaits physiologiques, physiques, qu'a constaté Anna Roy?
Et d'abord parce que quand on a du poids, et ben on a mal au dos, on a mal aux genoux, hein, puisque c'est sur les genoux, il y a la moitié du poids, sur chaque genou, il faut le rappeler. On a parfois des apnées du sommeil, on dort mal, on ronfle. On a aussi des problèmes parce que notre foie va se mettre à stocker le sucre sous forme de gras. Je rappelle que le sucre est stocké sous forme de triglycérides. Donc on parlera peut-être des bilans à faire là-dessus. Il y a aussi le fait que, Madame Kerjean en a parlé, c'est que souvent on dit « mais tu manges tes émotions ». Alors c'est un mot, mais en fait le problème c'est que le sucre, qu'est-ce qu'il fait après? On mange du sucre pour retrouver ses émotions. C'est paradoxal, c'est-à-dire que le cercle est fermé, c'est-à-dire qu'on mange pour calmer ses émotions au début, et puis après on va retrouver ses émotions à travers le sucre. Les émotions passent à travers le sucre ensuite. Donc il faut sortir de ce point-là. Alors si on est en surpoids, on est obèse, et qu'on a des questions là-dessus, ce qu'il faut c'est d'abord aller voir son médecin traitant, parce que c'est la personne qui vous connaît le mieux, et ils sont tout à fait, en France, on a la chance d'avoir des médecins qui connaissent leur travail.
Que faire, docteur Alouche, si, comme Anna Roy, on décide de se sevrer du sucre, on ne le fait pas tout seul?
D'abord, on ne le fait pas tout seul, on se fait accompagner par son médecin traitant, par un psychothérapeute, par également quelqu'un, un référent dans votre environnement. Il ne faut pas en parler à tout le monde, parce que si on en parle avec tout le monde a des avis sur ce point-là. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord avoir un principe de réalité. Combien je pèse réellement nu le matin? Quel est mon tour de taille? Parce que le plus important, c'est le tour de taille, parce que c'est là où la graisse s'accumule, et cette graisse est inflammatoire, et donc on mesure son tour de taille. Ensuite, on va voir son médecin, il va vous faire un bilan. Le bilan, c'est une numération formule sanguine pour voir si vous n'avez pas une anémie, pour savoir si vous avez des transaminases, c'est-à-dire si votre foie commence à être touché, votre glycémie à jeun, votre glycémie après le repas, et surtout aussi 2 points. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée.
Très important.
La moyenne en pourcentage de 3 mois de glycémie. Donc on peut très bien avoir une glycémie à jeun normale, mais une glyquée augmentée.
La glyquée
normale, elle est en dessous de 5,7%. Entre 5,7% et 6,4%, c'est le prédiabète. toujours réversible si on fait ce qu'il faut. Au-dessus de 6-4%, c'est le diabète de type 2. Donc, on fait ça, on fait aussi, on regarde où en est son rein, parce que le sucre est un ennemi du rein, il faut le savoir. Mmh. Et le rein, il n'y a pas grand-chose. Hein. Si le rein ne va pas bien à cause du diabète, mais après, c'est la greffe. Hein. Donc, il faut faire très attention.
Et on y va progressivement dans le sevrage ou on y va d'un coup ?
Alors ça, c'est vraiment c'est le thérapeute, le psychothérapeute. Et surtout, ce qu'il faut c'est... vous savez, il faut savoir aujourd'hui qu'il y a beaucoup de produits, maintenant, de médicaments qui peuvent aider au début. Mais le médicament, c'est une béquille. On peut l'avoir au début. Et puis ensuite, ça peut être des médicaments, des psychotropes, ça peut être des anti-diabétiques. Mais c'est au début. Mais il faut faire le travail soi-même et surtout, et je termine là-dessus, l'exercice physique. Ah oui. Nous avons plus de 60% de nos muscles. Nous ne travaillons pas assez nos muscles et c'est les muscles qui sont le meilleur traitement. Et moi, je dis souvent à mes patients, votre coach sportif, votre salle de sport est plus importante que moi.
Question de Christophe André.
Oui, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que racontait Anna Rouac, c'est le moment où quelqu'un de notre entourage ose nous dire, voilà, il y a un souci, faut que je t'en parle. Et beaucoup de personnes n'osent pas parce qu'elles ont peur de faire mal aux gens en surpoids.
Oui, alors moi, je fais partie de ces gens, mais peut-être je suis seule, mais pendant 10 ans, on ne m'a rien dit. Et en fait, je leur en veux pas parce qu'ils, voilà, c'est comme ça. Mais en fait, j'aurais préféré qu'on me le dise avant. J'aurais préféré qu'Agathe intervienne.
Agathe Le Caron,
qui est une Agathe avant ce.
Est-ce qu'il y a des mots ou des moments?
Moi, j'ai trouvé que ce qui était super dans la façon de parler à Agathe, c'était de dire le présupposé de base, c'est je t'aime, je sais que t'as des ennuis de santé associés, et donc j'ai pas envie que tu meures. Et qu'est-ce que je peux faire pour toi, quoi?
Toute dernière question de Marie-Laure Zunstein, de Femme Actuelle.
Docteur Allouche, alors à défaut, comme Anna Rouac, vraiment de couper court, est-ce que, vous parliez tout à l'heure du verre d'eau à prendre au repos pour laisser passer cette envie soudaine, est-ce que effectivement les plantes, on parle souvent de la cannelle, des graines de fenouil, ce genre de choses, est-ce que ce sont véritablement des alternatives contre l'envie de sucre soudaine ou un pisalé ou un placebo?
C'est une très bonne question. On sait que la cannelle a une action sur la glycémie, ainsi que sur certaines molécules comme la berbérine, ainsi de suite. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il faudrait des doses très importantes. Ouais. Par contre, la cannelle, elle peut aider si vous avez une fringale. Vous prenez un fromage blanc non 0%, hein, parce que le problème, c'est pas les graisses, c'est les sucres, et vous mettez un peu de cannelle ou du cacao sans sucre dedans. Et pourquoi le cacao? Parce que si vous aimez le chocolat, vous savez que dans le chocolat, il y a du sucre du gras, mais il y a une alcaloïde qui permet justement auquel nous sommes dépendants. Donc si vous mettez du cacao sans sucre, vous aurez l'alcaloïde et votre cerveau sera satisfait.
Merci pour ce tout dernier conseil, docteur Allouche. Je recommande d'ailleurs votre livre « Sucre, l'ennemi public numéro 1 » et c'est publié chez... Albin Michel. Merci beaucoup Anna Rouac, je recommande vraiment votre livre, votre témoignage très fort, énorme, publié chez Larousse. Et merci beaucoup Jacqueline Kerjean, vice-présidente de l'association Addiction France. Et merci au Ticket Tac du mardi, Christophe André et Marie-Laure Zunstein.
Rends bien vous fasse un podcast France Inter.